Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bienvenue à tous et merci d'être ici ce soir pour la conférence de M. Pascal Torres que nous avons le plaisir de recevoir. Historien de l'art, essayiste, romancier, M. Torres est conservateur en chef au Musée du Louvre et il est membre de la Real Academia des Nobles y Bellas Artes. Je parle espagnol couramment, hein. Vous l'avez remarqué. De San Luis, Académie royale fondée par Francisco de Goya sur ordre de Charles IV d'Espagne en 1792. Essayiste et romancier, Monsieur Torres va bientôt publier son livre qui sera, je crois, en janvier 2018, à paraître aux éditions, je ne sais pas. Le titre de votre livre, monsieur, je ne le sais pas non plus. Il nous le dira après. Pour la conférence de ce soir, Monsieur Torres va nous parler d'un des plus grands peintres de l'histoire moderne par sa conférence intitulée « Goya et l'invention de la modernité ». Monsieur Torres, il me reste à vous remercier infiniment d'être ici ce soir pour nous parler de Goya, qui vécut à Bordeaux et qui est mort en 1828. Merci.
Bien, merci pour votre accueil à Bordeaux et merci pour être aussi nombreux dans cette salle. Donc, nous allons parler de Goya et d'un aspect de l'œuvre de Goya en particulier qui est celui de l'invention, si on peut appeler ça une invention, de la modernité. Et pour commencer, j'aimerais faire référence plutôt à un grand auteur argentin, l'un des plus grands auteurs du XXe siècle, qui s'appelle Jorge Luis Borges, ou Jorge Luis Borges, comme on dit en français, qui, dans une conférence demeurée célèbre, parlait de Joyce et de James Joyce, en disant que, selon lui, James Joyce est essentiellement deux de ses œuvres, c'est déjà pas mal, l'Ulysse et Finnegan's Wake, sont... les emblèmes, les symboles de la modernité. Et il disait même d'une façon très exagérée, qui est sa façon de faire, ou qu'il était tout au moins, que tout l'héritage livresque et littéraire pourrait disparaître, et si on gardait ces deux œuvres pour le XXe siècle, eh bien on aurait finalement la plus grande synthèse de la modernité. C'est évidemment une exagération à la Borges et à la façon dont il le dit dans ses contes et fictions de l'Aleph, etc. Mais je le cite parce que l'élément également qu'il développe comme raisonnement au fil de cette conférence est très intéressant. Il dit que si Joyce, justement, comme les Irlandais, ont pu modifier à ce point le cours de l'histoire, il n'y a pas que Joyce, il y a Wilde qui était irlandais, Wellington, etc., tant de grandes figures irlandaises qui ont changé le cours de l'histoire. Il dit si ces personnes ont pu faire cela, c'est parce qu'ils n'étaient pas liés à une certaine loyauté en tant que anglophone à la culture anglaise, et cette part de liberté qui était la leur au sein de ce qu'était la culture britannique leur a permis de regarder avec un recul suffisant la culture britannique pour la transformer de fond en comble, la chambouler. C'est ce qui se passe, et c'est pour ça que je vous parlais de Joyce comme symbole de la modernité, tout en citant évidemment Goya comme le père fondateur de la peinture moderne. C'est parce que la peinture en Espagne a joué un rôle très particulier. Et en fait, la grande diversité de l'Espagne explique aussi que parmi les plus grands artistes qui sont les fondateurs au fil des siècles de cette modernité en peinture, on peut le faire commencer par l'un des plus célèbres internationalement qui est El Greco par exemple, eh bien, il y a eu un tel mélange, une telle synthèse culturelle au sein de l'Espagne qui s'est manifestée d'une telle façon dans la peinture que les grands maîtres regardant leur passé, les grands maîtres espagnols regardant le passé propre de la peinture et de la culture visuelle espagnole, se sont sentis sans doute au regard de la culture européenne dans une situation un peu similaire à celle que Borges décrivait quant à la loyauté envers l'héritage de la culture britannique, des Irlandais envers cette culture britannique, que, je dirais, des peintres espagnols envers ce qu'est la culture européenne, essentiellement italienne. Alors ça va se développer au fil de cette conférence, mais je pense que l'image et la comparaison est excellente. Quand je vous parlais du Greco, vous savez que le Greco, c'est un nom italien, c'est pas un nom espagnol. En espagnol, le grec, on le dit griego, non pas Greco, qui est le nom italien. Or, Greco, de son nom patronymique Domenikos Dominik Theotokopoulos, donc grec, évidemment de Candie, était un citoyen vénitien. Citoyen vénitien parce que l'île justement de Crète avait été conquise par Venise. Et lorsque le Gréco commence à peindre, il peint des icônes orientales, puis il va à Venise dans l'atelier du Tintoret, puis de Venise, il va connaître une émigration, enfin il va émigrer à la demande pour chercher des moyens de se développer économiquement, tout simplement, à Tolède. Or, ce n'est pas rien, Tolède. Tolède, c'est la première ville de la reconquête espagnole qui est libérée en l'an 1085, hein, comme vous le savez, au XIe siècle, et avec la lumière de l'Espagne, Alphonse V, hein, avec le soutien de Grégoire VII, qui est alors pape. Et c'est la première fois, finalement, la première ville libérée dans laquelle toute l'Europe va venir étudier. Étudier quoi ? Les manuscrits arabes, justement, qui est la première porte ouverte, justement, en plein XIe siècle, vers l'héritage antique qui avait été complètement oblitéré par les siècles qu'on appelle les siècles l'âge des ténèbres, c'est-à-dire un moment de triomphe barbare en Europe qui se traduira, évidemment, par un peu de brio autour de Charlemagne et de l'Empire carolingien, mais qui va, évidemment, se nourrir d'une façon extraordinaire par le biais des manuscrits arabes retrouvés à Tolède, arabes et juifs justement retrouvés à Tolède, de l'héritage antique qui avait été oublié en Occident. Vous voyez qu'il y a dans cette culture espagnole, et on ne peut pas comprendre la naissance de la modernité picturale sans véritablement se replonger dans ce grand mouvement qui s'appelle simplement la culture espagnole depuis la reconquête 1492 jusqu'à la modernité, on ne peut pas la saisir véritablement si on ne saisit pas, à l'inverse de ce qu'est la France, avec une culture qui va justement être un trait d'unification, hein, et d'un moteur européen pour l'uniformisation en quelque sorte aussi des grandes règles de la civilisation. On ne peut pas le comprendre si on ne saisit pas d'emblée que l'Espagne est une mosaïque véritablement de cultures très différentes. Je crois que les événements actuels tendent à le montrer encore ou à le souligner, et que dans cette interpolation constante, hein, de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Sud, des Flandres, de l'Italie, eh bien, il y avait suffisamment de matière pour des génies particuliers comme Goya, comme Velázquez, comme Murillo, comme tant d'autres grands peintres, mais spécialement pour Goya, pour remettre en cause véritablement le sens propre de la figuration, c'est-à-dire donner l'essence à ce qu'est la peinture moderne. Alors, ce que je vous montre ici, c'est l'un des portraits, des autoportraits de Goya. C'est évidemment normal de commencer par là, je dirais. Un portrait qui est absolument extraordinaire. Autoportrait donc qui est exposé au Prado en général entre le 2 et le 13 de mayo, hein, dans la salle que vous voyez entre le 2 et le 3 mai. Et je vais commencer ces commentaires par justement l'évocation des dernières années de la vie de Goya à Madrid, puisque dans le cadre de cette conférence, nous n'avons pas le temps de parcourir tout l'itinéraire de Goya. On sait qu'il naît en 1746, on va s'en souvenir. On sait qu'il meurt en 1828 à Bordeaux. Entre-temps, il y a une aventure très particulière qui est celle de sa biographie, de sa vie. Et l'on peut dire que de 1746 jusqu'à 1766, le retour de Parme où il va se former, etc., eh bien, et de cette époque, de la décennie 70 finalement jusqu'aux années 80, Goya suit une carrière, je dirais, assez accidentée d'ailleurs, sur laquelle on ne va pas revenir. On n'a pas le temps ce soir, mais il va développer un art qui serait demeuré d'une qualité extraordinaire, nous sommes d'accord, à la façon d'un Fragonard, d'un Greuze, parmi ces peintres du XVIIIe siècle. Mais c'est véritablement à partir de 1792 et d'une crise extraordinaire de santé, hein, tout simplement, d'un retournement radical en 1793, que Goya va devenir la figure majeure de la peinture européenne, le père fondateur de la modernité picturale. Et sans cet accident de 1792-93, eh bien, ma foi, il aurait sans doute eu une carrière, il serait connu comme un grand peintre, certes, mais pas le plus grand, en tout cas des peintres espagnols, avant Picasso. Alors, je vous montre ici un autoportrait de Goya, parce que je parlais de 92, vous savez qu'en 1792, donc, Goya part à Cadiz, et de là, il est amant, suppose-t-on, de la duchesse d'Albe, et il va se trouver malade, enfin une maladie va le terrasser, on ne sait pas exactement ce que c'est, sans doute peut-être un petit AVC ou quelque chose comme ça, qui va le laisser paralytique, aveugle, sourd, et finalement, se soignant de cette attaque cérébrale, eh bien, il ne garde gardera que la surdité complète, à la façon de Beethoven, voyez. Et après, de 1792, donc moment de rupture particulière, dès 1793, il écrit à l'Académie pour dire qu'il va renoncer à tous ses avantages, à tous ses titres de recteur de l'Académie. C'était le premier peintre de la Chambre du Roi, vous voyez, c'est quelque chose d'énorme, et qu'il va se recentrer sur sa propre création, sa propre inventivité. Bon, ça, nous y viendrons après ce que je vais vous montrer. Et durant ces années, il développe donc un art qui est très particulier, jusqu'à ce que, et c'est l'image que vous avez sous les yeux, durant l'année, je vais vous montrer la photo suivante et on va la lire ensemble. Alors, pour la lire, je vais m'appliquer de ce côté-là. Vous voyez, sous cet autoportrait, hein, le premier autoportrait que je vous montrais était Goya en pleine période, il est déjà sourd certes, mais c'est en 1800. Maintenant ici, c'est un autoportrait, vous le voyez, souffrant, avec son médecin dans ses bras, et il dit « Goya, agradecido a su amigo Arrieta por el acierto y esmero con que le salvo la vida en su aguda y peligrosa enfermedad padecida a fines del año 1819 a los 73 de su edad, lo pintó en 1820. Cela dit, Goya, en remerciement à son ami Arrieta, qui était son médecin, hein, qui est représenté dans cet autoportrait, pour la clairvoyance et le mérite avec laquelle il lui a sauvé la vie lors de son de sa grave et aiguë maladie, dangereuse et aiguë, et maladie aiguë, qu'il a souffert à la fin de l'année 1819, à l'âge de 63 ans. Goya a peint cette peinture, Lo Pinto, il l'a peint en 1820. C'est la deuxième attaque, hein, de Goya, donc à la fin de l'année 1819-1820, où véritablement il voit la mort en face. Et c'est au cours de cette deuxième attaque qu'il va, suppose-t-on, achever ce que sont ces peintures que nous allons voir ce soir avant tout, le cycle que l'on appelle las pinturas negras, c'est-à-dire les peintures noires, pour deux raisons, noire comme l'âme, hein, comme peut l'être la noirceur du cauchemar, et noir également parce qu'il utilise du noir, chose que ne fait jamais un peintre, hein, jusqu'alors, jamais de noir dans la peinture, hein, le noir est une couleur, donc c'est en bleu, c'est en rouge, c'est ce que vous voudrez, mais les peintres ne peignent pas en noir, jamais, théoriquement, jusqu'à l'époque moderne. Et voilà que ces peintures qu'il réalise au sortir de cette maladie, c'est-à-dire après avoir fréquenté ou vu la mort en face, eh bien, sont véritablement ce qu'on peut appeler la Sixtine de l'art moderne. C'est-à-dire que ces peintures, elles ont deux noms, on appelle ça les peintures noires, ou également les peintures de la Quinta del Sordo. Et la Quinta del Sordo, ça veut dire le domaine du sourd, d'accord ? Alors, vous l'avez sous les yeux, cette Quinta del Sordo, dans une carte, dans une photographie ancienne, jusqu'à il y a peu inédite. Et vous voyez la maison. Alors, vous voyez ici, est-ce que. Ah, voilà, on sait bien, on voit la flèche, désolé, hein, c'est pour voir s'il y avait un curseur. Donc voilà la petite flèche, je vais essayer de la bouger lentement. Voilà la Quinta del Sordo, cette maison, que Goya achète en 1815 lorsqu'il se retire finalement de la cour pour peindre les peintures, enfin la voûte à fresque de San Antonio de la Florida. Et Goya vit reclus dans cette maison. Je vous ai dit qu'il avait déjà, depuis 1793, abandonné ce qu'était ses responsabilités en tant que recteur de l'Académie royale, ce qui est énorme. Il continue d'être le premier peintre de la Chambre du Roi, mais il se retire de la vie de la cour. C'est énorme. Et il se concentre dans cette maison sur son œuvre personnelle. D'une part, San Antonio de la Florida, qui est le grand chef-d'œuvre de la fresque, qui est aujourd'hui invisible pour le public, parce que c'est comme les grottes de Lascaux. On l'a fermé au public, on a fait une copie qui est juste à côté, parce que ça souffrait énormément de l'afflux des visiteurs. C'est là que Goya est enterré, d'ailleurs. Non, c'est la crypte, hein, il est sous ses peintures. Et également, il se consacre à un grand cycle de gravures que nous verrons tout à l'heure, qui est le dernier cycle de gravures, la dernière série gravée qui s'appelle Los Disparates, qui veut dire les folies, les exagérations, etc. Et en même temps, sur les murs de cette maison, Quinta del Sordo, c'est-à-dire la maison du sourd, eh bien, il va peindre ces peintures noires qui sont véritablement l'acte de naissance de la modernité en peinture. Alors, je précise quand même que Quinta del Sordo, ça c'est très amusant, le domaine du sourd, s'appelait comme ça, non pas parce que Goya y a vécu, ces dernières années madrilène. Mais elle s'appelait déjà comme ça la maison parce que le propriétaire était sourd. Et Goya achète le domaine qui porte déjà le nom de la maison du sourd. C'est quand même intéressant. C'est tout ce domaine qui n'existe plus aujourd'hui, qui se trouve de l'autre côté de la petite rivière de Madrid, qui, il n'y a pas beaucoup de rivières à Madrid, il y a celle-là, Rio Manzanares, hein, comme on l'appelle, qui était à l'époque en dehors de Madrid, dans la campagne. D'accord ? Donc c'était véritablement un endroit rural. Okay ? On n'était plus dans la capitale madrilène, juste à la porte. Alors là, c'est une photo où l'on voit les façades de la Quinta. Regardez bien ces fenêtres, elles nous intéressent. Et puis, voilà l'intérieur. Alors ça, ce sont des photos géniales qu'on a retrouvées il n'y a pas si longtemps non plus, qui sont des photos réalisées par un Français, alors je vous expliquerai pourquoi, pour le compte du marquis d'Erlanger qui avait acheté la maison. Et là, vous voyez sur cette photo comment étaient les peintures de la maison du sourd, dites les peintures noires. Alors vous voyez qu'on a du papier peint, ça c'était donc le premier étage parce que le rez-de-chaussée avait des motifs floraux dans le papier peint. Les cadres que vous voyez là sont des cadres de bois qui sont appliqués sur la cloison. Et en fait, vous voyez que Goya avait peint directement sur les murs de sa maison. Alors, ces peintures, comme on le voit ici, on les verra en couleur tout à l'heure, vous pouvez voir ici qu'il y a des décollements, des décrochements, vous voyez, de la peinture. La peinture a souffert énormément. C'était peint, regardez ici, tous les accidents de surface. Le plâtre, la peinture peinte directement sur le plâtre à l'huile. Là, Goya inaugure une chose nouvelle qui va revenir dans la laitière de Bordeaux un peu plus tard, quand il est à Bordeaux, qu'on voit précisément dans cette peinture, c'est qu'il va broyer les pigments directement avec de l'huile. Et il applique l'huile sur le plâtre de la maison, sans l'avoir préparé à fresque ni rien. Vous pouvez imaginer qu'avec les remontées d'humidité, etc., le plâtre se décroche, les morceaux tombent. Voilà pourquoi ces peintures étaient dans un état épouvantable lorsque le marquis d'Erlanger en fait l'acquisition, etc., un peu plus tard. Alors, vous voyez que les peintures étaient faites pour lui-même, d'accord, présentées de cette façon dans la maison Goya, telle que vous le voyez là. C'est comme Goya, bon, malgré les accidents, avec les accidents en plus, hein, certes, de l'histoire de ces peintures, telles que Goya les avait peintes. Et alors, il se trouve que, je vous parlais du marquis d'Erlanger, qui a acquis cette maison Goya de la Quinta del Sordo avec l'idée de racheter ces peintures pour, ce que vous voyez comme image ici, vous reconnaissez peut-être l'aspect, vous voyez la galerie ronde, en fait c'est la galerie du Trocadéro à Paris. Lorsqu'il y a eu l'exposition universelle de 1878, eh bien le marquis d'Erlanger qui avait acquis les peintures noires les avait faites décrocher, et vous les voyez ici, et les avait montrées dans la salle de l'Espagne avec l'espoir de les vendre en tirant un très bon bénéfice. Or, ces peintures noires étaient tellement incomprises ou incompréhensibles pour le public fortuné qui aurait pu les acheter que le marquis n'a pas pu les vendre, d'accord ? Il était français, etc. Donc il les a finalement, pour s'en débarrasser, offertes en 1881 à l'État espagnol qui, à son tour, les a affectés au musée qui était le musée national de peinture et de sculpture qu'on appelle aujourd'hui le Museo Nacional del Prado, hein, comme vous le connaissez. Et c'est comme ça que ces chefs-d'œuvre de la peinture, eh bien, sont restés finalement en Espagne après avoir fait un petit détour par la France. Alors, ces peintures, évidemment, j'imagine que vous les connaissez, vous avez envie de les revoir ou les étudier. Elles étaient, comme je vous l'annonçais, des peintures privées. C'est-à-dire, elles n'étaient pas faites pour être vues par le public, d'accord ? Donc Goya va développer là, véritablement, un art totalement personnel. On verra plus tard ce qui était contemporain de ses peintures. Pour l'instant, on va s'attacher à l'ordre de ses peintures tel qu'on le suppose, en fait, plus que supposé, tel que la description de ces peintures existe dans l'inventaire de 1854, puis l'inventaire de la maison del Sordo, hein, de la Quinta del Sordo, de la maison du sourd, telle qu'elle s'est faite au fil des héritages des enfants de Goya. Parce que le dernier héritier en date qui vend cette maison aux Français, marquis d'Erlanger, qui était banquier, hein, etc., est Mariano Goya, c'est-à-dire le petit-fils du peintre, d'accord ? Et donc c'est le fils de Javier Goya qui était le fils du peintre, d'accord ? Et Josefa Balleu, qui était la femme de Goya, donc qui était là, puisque Goya était beau-frère de Balleu, qui était l'un des premiers peintres de la chambre du roi également. Alors, regardons ça et avançons progressivement dans ces peintures. Vous voyez qu'il y a d'abord ici, vous voyez qu'il manque une peinture, d'accord ? Il y a un blanc, et en fait, c'est la peinture manquante. Donc il nous en reste 14, la 15e, eh ben, on l'a perdue, parce que Mariano Goya, le petit-fils de Goya, l'avait déjà faite décrocher pour l'envoyer, pour l'envoyer à l'une des grandes admiratrices de Goya, qui souhaitait effectivement cette peinture. Alors, je vous montrerai, il y a une supposition, je pense qu'on l'a retrouvée, la peinture, elle est dans la collection de Stanley Moss à New York maintenant, collection privée, mais elle est au même format que le chien, etc., que les autres, donc c'est vraisemblablement cette peinture qui devait être là. Alors vous voyez que, évidemment, cet ensemble pictural de Goya était déjà célèbre, même s'il n'était pas ouvert au public. Par contre, de grands amateurs d'art, évidemment, s'y rendaient d'une façon privée pour voir ce que Goya, le plus grand peintre espagnol de tous les temps, avait laissé comme testament pictural. Donc vous voyez ce qui se passe. Et c'est pour ça que, peu à peu, ces peintures vont commencer à être les plus connues, mais elles ne seront véritablement reconnues comme le testament du maître ou la naissance de l'art moderne que par l'école française, de Manet, etc., enfin, les jeunes impressionnistes, puis tout ce qui s'en suivra, en France, à Paris, sous le Second Empire et sous la Troisième République, à la suite du Second Empire, naît véritablement le mouvement de la modernité. Alors, regardons comment, enfin, une par une, ces peintures, puisque nous avons la chance, évidemment, de les conserver directement. Alors, la première de ces peintures, telles qu'elles sont rassemblées au musée du Prado aujourd'hui, eh bien, s'appelle El Santo Oficio, le Saint Office, donc c'est la messe. Alors, c'est une technique, comme je vous l'expliquais précédemment, mixte, c'est-à-dire de la peinture à l'huile appliquée directement sur un revêtement mural et que l'on a ensuite passé sur toile. Cette peinture que vous voyez, le Saint-Office, est immense. Je vous l'ai montré précédemment la reconstitution de la maison. Elle est ici. Vous voyez qu'elle mesure près de 3 mètres de large sur 1,27 m de haut, donc 266 par 127. C'est une peinture monumentale. Elle représente donc une messe. Alors, j'attirais l'attention sur une chose importante, c'est que les titres qui sont donnés ne sont pas les titres de Goya. D'accord ? Ce sont des titres qui se sont transmis de bouche à oreille, tout simplement, et pour lesquels on n'a aucune certitude. Donc, il n'y a rien, pas de document écrit qui en atteste, sinon les premiers inventaires du Prado, voire les photographies de Laurent, du Français, qui ont été réalisées en 1864, dans la fameuse maison. Donc, vous voyez qu'il y a une marge d'interprétation. Et pour être franc, eh bien, on ne sait pas trop ce que ça représente la plupart du temps. Enfin, il s'agit de regarder l'image, de la lire et d'imaginer. Là, on comprend que c'est le retour, effectivement, ou la procession qui va aller vers la messe. Regardez comment c'est constitué. Ça, c'est très important. Je vous ai montré Goya, l'autoportrait avec le médecin Arrieta en 1820, qui rappelle la maladie dont il a souffert en l'année 1819 à l'âge de 63 ans. En fait, lorsque Goya commence à peindre cette série, on a étudié ça en faisant des radiographies, etc., et des prélèvements, Goya avait au départ visiblement peint des paysages, d'accord ? Des paysages qui n'étaient pas habités, qui étaient déserts, d'accord ? Et ces paysages ne sont pas n'importe quel paysage. Pour ceux qui connaissent l'Espagne, et vous savez que, donc, même si je ne reviens pas sur la biographie générale de Goya, Goya est né en 1746, je vous disais, dans une petite ville qui n'est pas Saragosse, qui était la ville d'à côté, qui s'appelle un petit village à 40 km, qui s'appelle Fuente de Todos, qui était le village de sa mère, Lucientes, d'accord, le nom de famille. Et à Fuente de Todos, pourquoi est-ce qu'il est né là ? Il est un peu là par accident, parce que son père, qui était doreur sur bois, avait reçu la tâche de dorer l'autel de la nouvelle église qu'on venait de construire à Fuente de Todos. D'accord ? Donc, lorsque Goya est né, eh bien, c'est parce qu'à Fuente de Todos, c'est parce que le père de Goya et sa mère étaient allés vivre dans la famille de la femme de Goya, donc de Goya père, et il est né là, et immédiatement après, il est retourné à Saragosse, où était la maison familiale. Bien. Je parle de Fuente de Todos parce que lorsque, dans l'histoire mouvementée de l'Espagne, que vous connaissez peut-être, il y a, vous le savez, l'invasion napoléonienne qui surgit en 1808. Bon. Au moment c'est la première défaite impériale d'ailleurs, qui a lieu au siège de Saragosse. Il y aura deux sièges de Saragosse. Le premier siège de Saragosse, où l'armée napoléonienne est mise en déroute, il y a Palafox, donc le grand général en chef de la royauté, qui est l'allié des Anglais, etc., demande à Goya de venir pour réaliser son portrait. Goya, qui est alors par la force des choses premier peintre de la Chambre, donc premier peintre de Napoléon, de José, José I ou Joseph Bonaparte, le frère aîné de Napoléon, qui est le roi usurpateur qui alors règne en Espagne, eh bien abandonne Madrid pour aller à Saragosse. Or, qu'est-ce qui se passe, pensant rester à Saragosse? Eh bien, second siège de Saragosse. C'est donc les armées napoléoniennes qui entourent Saragosse. Il n'a qu'un choix, c'est de partir, parce que s'il est pris au piège de Saragosse, en tant que déserteur de la cour du Bonaparte, et en même temps présent à côté de Palafox et des résistants aragonais, il est évident qu'il sera exécuté. Donc il part, il s'enfuit à Fuente de Todos. Bon. C'est un moment très particulier. Et partant à Fuente de Todos, ça va donner une œuvre majeure de la gravure, que nous verrons après, qui s'appelle Les désastres de la guerre, Los desastres de la guerra. Et dans cette série gravée, eh bien, qu'est-ce qu'il montre? Il montre toutes les horreurs qu'il a vues pratiquées par l'armée d'occupation, qui est alors l'armée napoléonienne, entre Saragosse et Fuente de Todos. Les paysages qui sont là sont les paysages que l'on voit, dont Goya se souvient, les paysages de son enfance, de sa jeunesse, puis de sa fuite de Saragosse à Fuente de Todos. Ce sont ces paysages-là, totalement, qui sont très désertiques. Vous voyez, il y a le désert des Monegros au nord de Saragosse et à l'est, et à l'ouest, pardon, nord-ouest. Et il y a, en allant vers Teruel, donc vers Fuente de Todos, ces paysages au sud qui sont absolument arides. Ce sont ces paysages qu'il dessine dans sa maison de Madrid lorsqu'il se retire de la cour et qu'il est dans les champs, vous voyez, au milieu de cette zone rurale qui marque son exil, en quelque sorte, un peu prématuré de la cour. Et donc ce sont ces paysages qu'il reconstitue. Alors on ne sait pas quand. Mais tout à coup, enfin, on pense que c'est encore une fois après cette attaque très forte, où vraiment il a failli mourir pour de bon, encore une fois, tout comme en 92, mais là encore plus parce qu'il est plus âgé, au réveil de cette, ou au sortir de cette maladie, eh bien, il entreprend de dessiner des motifs, d'habiter ces paysages de monstres inconnus, etc., comme dira Baudelaire un peu plus tard, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sables, vous savez, c'est le poème de Voltaire qui s'appelle Les Phares. C'est là où il commence à peindre ses éléments sur les murs, sur les paysages de sa maison. Alors, voilà donc le Saint-Office, vous voyez, qui est évidemment l'une des peintures les plus célèbres, mais la plus célèbre est sans doute celle-ci, qu'on appelle El Gran Cabrón, ça veut dire le grand bouc qui est là, et qui est évidemment El Aquelarre en espagnol, ça veut dire le sabbat, d'accord, le sabbat des sorcières. Bon. Alors, celui-ci, c'est l'un des plus grands parce que c'est une peinture qui mesure 4,35 m, vous voyez. C'est l'une des peintures les plus étonnantes de Goya. Dans cette photo, là, vous voyez en bas la peinture telle qu'elle est aujourd'hui au Prado, et je voulais vous la montrer avec la photo de Laurent, d'accord, en haut, qui est une photo prise en 1864. Et vous voyez que lorsque la peinture est dans la maison, vous voyez qu'il y a ici déjà énormément d'accidents. Alors, ce que vous voyez là, c'est parce que ce sont des grands clichés verts qu'a fait Laurent. On est en 64, donc vous voyez que la photo, ça passait par les clichés verts avec les grandes chambres, etc. Donc, le cliché vert est fendu, mais on reconnaît quand même tous les accidents. Si on regarde ici, vous voyez, voilà, on ne voit pas bien la personne qui est à l'angle droit, là. On ne la voit pas. On la voit ici, mais pas de l'autre côté. Vous voyez qu'on a coupé une partie de la peinture. Vous voyez, il manque ça. Elle se trouve là. Et la Quellare aujourd'hui s'arrête là. Okay, donc, ce n'est pas possible de garder. On n'a pas gardé l'ensemble de la composition. C'est pour ça que je vous le montre. Les peintures que nous voyons aujourd'hui sont des modifications par rapport à ce que Goya a laissé. Pourquoi modifications? Parce que lorsqu'on les transpose du mur sur la toile, il y a des morceaux qui tombent, qui s'effritent. On ne sait pas très bien. On sait le faire. Oui, la transposition sur toile, on rate des fois le coup. Et puis, il faut reprendre la peinture. Donc, ce que nous voyons aujourd'hui dans les salles du Prado n'est plus que, disons, enfin, quand même, pas un reflet vivant et très fort, mais ce n'est pas exactement le caractère expressif qu'avait recherché Goya. D'accord? Alors, vous voyez donc l'un de ses grands chefs-d'œuvre, donc qui est le sabbat, et vous voyez, il se trouvait en plein sur le mur. Alors, j'aime beaucoup dans cette simulation, cette image informatique du truc, enfin, pardon, numérique de la maison du sourd, on voit, c'est très bien fait, il y a la campagne, d'accord? Parce que là, c'est le côté qui regarde pas Madrid, mais le côté de la campagne. Donc, vous voyez les peintures, bon, parmi les plus célèbres, le Saturne des Brancéphis, Judith et Holoferne, et la Quellare, vous voyez que El Gran Cabrón regarde, en fait, les deux figures terrifiantes de Saturne et de Judith et Holoferne. Alors, on continue parce que on a à nouveau El Aquelarre, c'est pas Al, hein, c'est El normalement, ou Asmodée, qui est la peinture suivante dans le cycle tel qu'il est. Je vous donne l'ordre tel qu'il est gardé au musée du Prado sur le numéro d'inventaire, tel qu'on le représente en général, on le numérote. Asmodée, c'est le démon, c'est Satan, d'accord. Alors le Satan en question, vous voyez, encore une fois, il est pris dans un paysage. Alors d'ailleurs, c'est un paysage très étonnant qui va de Madrid vers Teruel, qui est Sigüenza. Si vous le connaissez, vous le retrouvez directement, ou les maisons suspendues de Cuenca. C'est vraiment des lieux visités par Goya qui sont repris hein, simplement dans le paysage qui ressurgit dans sa mémoire, toujours, je vous dis, des alentours de Fuente de Todos. C'est la peinture la plus claire de l'ensemble de ces peintures noires. Et vous voyez que les personnages effrayants, eh bien, vous avez deux soldats français qui tirent hein, directement sur la vision la vision sublime hein, qui apparaît dans cette composition. Alors, dans la suite des peintures, on va regarder les peintures donc, qui sont de part et d'autre de la porte en fait et des fenêtres. Là, c'est l'une des peintures les plus, qui fait le plus ouvertement référence à la peinture classique espagnole, parce qu'il faut voir d'où ça sort, hein, ces personnages. C'est la lecture, qui reprend une peinture de Maino, parmi les peintures très connues hein, de Maino, qui est donc un peintre qui précède Velázquez à la cour des Habsbourg. Bon, en plein 17e, l'un des premiers grand fondateur de l'école du siècle d'or. Alors, ici, on a la lecture. Vous voyez comment c'est fait, dressé vraiment. C'est peint sur un fond sombre, noir, comme je vous le disais, avec, vous voyez, les grands coups de pinceau, enfin, les grands coups de brosse, comme ça, qui viennent occulter le paysage que l'on reconnaît derrière. Vous voyez, vous reconnaissez à nouveau le profil des maisons, des montagnes, etc. Alors, cette peinture, absolument importante, et fait face à l'une des plus célèbres, évidemment, de ce cycle des peintures noires. Vous voyez bien que lorsqu'on a une peinture comme celle-ci sous les yeux, on retrouve totalement la fascination non seulement des peintres, hein, mais des écrivains modernes qui ont dressé de Goya, évidemment, les éloges les plus forts, et dont Baudelaire, dont je voulais vous le relire le quatrain, hein, dans Les Phares. Vous savez que dans Les Phares de Baudelaire, bon, ça fait partie des pièces maîtresses des poèmes écrits dans Les Fleurs du Mal, donc on en 1857, où il dit, Goya, cauchemar plein de choses inconnues, de fœtus qu'on fait cuire au milieu des sabbats, de vieilles au miroir et d'enfants toutes nues, pour tenter les démons, ajustant bien leurs bas. Et après, Baudelaire termine, et là c'est vraiment le sens hein, de la modernité, en disant, car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité, que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité. Il y a deux choses très importantes que Baudelaire a saisies, comme tous les modernes, dans l'œuvre de Goya, c'est cette relation à la temporalité et au temps, d'accord ? Le temps devenant l'élément majeur de l'expression de l'art moderne, d'accord ? Indépendamment des éléments de visualisation, enfin des éléments de représentation qu'on peut avoir dans la peinture. C'est la même chose qui se produit dans la littérature. Alors, ce que je citais tout à l'heure, Borges, qui citait Joyce hein, comme élément majeur, c'est pas pour rien qu'il cite l'Ulysse. L'Ulysse, c'est un fragment du temps, c'est 24 heures de la vie d'un homme, Léopold Bloom, qui devient une vision du temps infini. D'accord ? C'est ça, dans Goya. C'est révéler, finalement, le grand mouvement qui était à l'œuvre depuis la peinture baroque avec Velázquez dans la peinture espagnole, avec d'autres, avec le Bernin à Rome à la même époque, pour arriver à une méditation sur le temps. Et c'est cet élément essentiel qui va devenir à l'élément moteur de l'expression. Pour saisir la chose, il faut voir que dans le langage de la littérature, puisque c'est pour ça que je pense que citer Baudelaire, pas pour le citer et faire un ornement, mais pour essayer de voir ce que les modernes disent de cela en tant qu'acteur de la modernité, en tant que poète ou littérateur. Regardez, c'est pareil pour Flaubert, par exemple. Vous avez ce mouvement qui va toujours une interrogation sur le temps. Et comment représenter ? Tout artiste, qu'il soit peintre, qu'il soit sculpteur, qu'il soit écrivain, sait qu'il y a dans le langage une part de mort. C'est-à-dire quelque chose qui ne peut jamais être exprimé. Quand Flaubert dit « Emma, là, à la fenêtre », c'est rien dit. On ne peut rien dire. Vous pouvez l'imaginer. Vous imaginez quelque chose. Mais là, on ne dit rien. Par contre, si vous essayez de transcrire, de dire « Emma dit, ah, Charles, bonjour », etc., ok. Là, on est dans le langage retranscrit, on donne un petit fragment de réalité dans un texte. Vous voyez que tout n'est pas écrit sous forme de dialogue. D'ailleurs, même le dialogue lui-même peut être faussé. C'est-à-dire que l'œuvre d'art ne transcrit pas la réalité. La réalité n'est pas que dans la littérature des sons, elle n'est pas dans la peinture que des formes, il y a les odeurs, il y a le temps, il y a tous ces éléments qui ne pourront jamais être transcrits dans un texte, dans une peinture, dans une œuvre d'art. Et c'est ça qu'on appelle la part de mort, finalement, qui est propre au langage humain. Bon, au langage, parce qu'on n'a pas d'autre. Donc on est là. Et c'est ce que les modernes vont essayer de faire pénétrer dans les textes, dans la peinture, dans l'architecture, dans toutes les formes, dans la musique évidemment, dans toutes les formes d'expression artistique. Voilà ce qui se passe. Alors, dans cette peinture, précisément, du Saturne, c'est pas pour rien. Saturne, c'est Chronos, c'est le temps qui dévore ses enfants. C'est le symbole même du temps qui est la peinture pivot de cet ensemble de composés qu'on appelle les peintures noires. C'est le temps qui est vu là et qui dévore les êtres. C'est une encore de femme peut-être, on ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas encore d'enfant. Et en observant cette peinture, on l'a étudiée avec au Prado en faisant des radiographies. On a vu apparaître avant Saturne. C'était la figure d'un danseur que Goya avait peint sur le mur, d'accord ? Et ensuite, il l'efface complètement après sa crise de 1819-1820 et il peint ce Saturne dévorant ses enfants. C'était un danseur dans un paysage qui rappelait étrangement, un paysage très clair, qui rappelait les cartons de tapisserie, par exemple, voyez ? Et la figure du danseur est effacée pour passer à cette figure dramatique. Cette figure dramatique, par ailleurs, n'est pas anodine. Je vous disais que Goya était le premier peintre de la chambre, c'est-à-dire que c'est en même temps le conservateur, en quelque sorte, des collections royales de peinture. Vous imaginez ce que sont les collections royales de peinture au XVIIIe siècle, sous le règne de Charles III, Charles IV, etc. C'est le Prado d'aujourd'hui, pratiquement. Voilà, avec sans les Goya, puisqu'ils n'étaient pas tous rentrés et tous créés à cette époque. Ça veut dire que Goya connaissait parfaitement ses peintures. Je vais faire une incise. Vous savez que Napoléon, dans tous les territoires conquis, demandait le cadeau de l'empereur, comme on le disait. Le cadeau de l'empereur, on connaît ça en France aussi, sous les occupations allemandes ou nazies, c'était prendre des chefs-d'œuvre du patrimoine national pour les mettre au musée du Louvre. Bon, là, c'était comme ça. Bien. Donc, c'est Goya qui était chargé de faire la liste des peintures qui seraient offertes à l'empereur. Et Goya l'a faite en détournant pas mal de choses. Puis Joseph Ier, José Primero, ne connaissait pas grand-chose, n'était pas très éduqué. Et donc, il a envoyé pas mal de croûtes dans le truc, en protégeant des grands chefs-d'œuvre, notamment les Médines qui sont restés en Espagne, etc. Donc, Goya va citer une peinture essentielle de la décoration de l'Alcazar qui avait été demandée par Philippe IV, du temps de Rubens et de Velázquez, qui est ce Chronos dévorant ses enfants. Vous voyez ? C'est une réponse à cette peinture que Goya transcrit. Alors, c'est intéressant de voir les deux, parce que celui de la peinture de Rubens est tout aussi violente que celle de Goya. Surtout, vous voyez qu'il déchire la peau avec application, etc. C'est extrêmement violent. Vous voyez que chez Goya, c'est autre chose. C'est l'immédiateté d'une expression. Vous voyez, on est sur le chemin qui va mener à l'expressionnisme directement. Je parlais tout à l'heure de la littérature. Pensez, on a exactement la même chose. C'est pas étonnant. Et en musique, pareil, à ce moment-là. Vous avez l'artiste qui cherche, ou l'écrivain qui va chercher, qui a deux voix. Soit la voix qui est celle du symbolisme, qu'on va voir au XIXe siècle, Mallarmé, etc., soit celle du naturalisme, avec l'expression de la réalité. Mais l'un comme l'autre, finalement, se rend compte que le langage n'est jamais qu'un symbole. Qu'il soit celui qui veut décrire la réalité, tout comme celui qui veut surtout pas se salir dans cette réalité, ce bas monde, vous voyez, pour aller dans l'évocation sonore, Zabouli Bibelot, etc., tout ce qu'on a, qui sont des beautés visuelles ou des beautés sonores, mais qui expriment d'une certaine façon quelque chose, avant tout du langage, plutôt que d'un réel sur lequel on se permet de douter. Alors, c'est ce qui se passe dans ces peintures. On va continuer, vous voyez, regardez où elle se trouvait. Vous avez donc le Chronos qui est là, et la Judith Holoferne qui était à côté. Alors, la peinture suivante dans l'ordre du Prado, vous voyez que je l'ai mis exprès dans l'ordre de la, dans l'ordre de ce, du musée pour vous montrer qu'il y a une incohérence entre les deux. D'accord ? C'est-à-dire qu'elles sont montrées au musée comme dans un musée, mais pas comme Goya les a vécues et créées. Et cette peinture, c'est parmi les plus beaux paysages, justement, de cette série de peintures noires. Vous avez là deux hommes qui se battent à mort dans des sables mouvants, d'accord ? Et là, pour le coup, on voit, regardez, vous voyez la montagne, on voit la montagne, qui, on voit que l'homme, qui est une sorte de géant, de colosse, hein, ici, qui est en train de se battre contre l'autre, on reconnaît le paysage derrière les personnages, d'accord ? Vous voyez que la transparence est telle de ces personnages, vous reconnaissez les nuages, vous voyez bien la forme du nuage dans le tracé du corps, etc. On voit comment cela a été peint, par étapes et superposition, d'accord ? Vous imaginez Goya continuellement modifiant ce paysage intérieur, d'accord, et vous l'imaginez surtout pris dans la surdité absolue, d'accord, sans contact avec le monde extérieur par l'oreille. C'est simplement visuel où il faut écrire, vous voyez. Donc c'est un monde qui est véritablement refermé sur lui-même, et ce monde de rêve ou de cauchemar, comme on voudra, onirique en tout cas, qui est celui qui l'anime. Alors, dans cette série, il y a la sublime Judith et Holoferne. Vous connaissez l'histoire, Judith décapite Holoferne. Voilà, donc on a la Judith ici. Alors, c'est l'une des... Vous voyez le masque là, posé directement. Hein, on voit, c'est comme, on voit la violence de la peinture. Regardez le bras. Hein, c'est quelque chose qui est absolument... nouveau hein, dans l'art de la peinture à l'huile, tout au moins. Est-ce qu'on peut parler de peinture à l'huile ici? En fait, Goya reprend un élément qui a marqué son génie pictural lorsqu'il était peintre de fresques, vous voyez, notamment à San Antonio de la Florida, mais dès 1781, lorsqu'il avait peint la coupole du Pilar à Saragosse, hein, qui est le grand temple de Saragosse, où il faisait des aplats énormes comme ceci qui, vu de loin, un peu à la façon de Gainsborough, le peintre anglais, eh bien, se mélangeaient, d'accord, et donnaient une vivacité à la couleur, une vitalité, pardon, à la couleur qui était inédite jusqu'alors. Et là, il le retranscrit directement. Ce qu'il veut montrer, ce n'est pas le visage uniquement d'Holoferne, mais la façon dont la couleur va construire le visage, d'accord. C'est là où ça devient quelque chose de véritablement révolutionnaire. Et dans ces coups de génie successifs, cette peinture est vraiment l'acte de naissance de l'art abstrait, hein, quand on le regarde. C'est-à-dire que c'est uniquement la matière de la peinture telle qu'on l'a vue. Vous voyez, Goya n'a pas pu remplir là, le paysage de personnages. Ici, c'est le chien. Hein, donc, le chien à demi enfoui dans des sables mouvants. C'est ce qu'il représente. Alors, sur une photo parmi, je l'avais vu, mais je ne l'ai pas trouvé en document, donc je ne veux pas vous la montrer, mais dans l'une des photos de Laurent, on a pensé, mais je trouve que ce n'est pas évident, qu'ici il y avait comme deux oiseaux, le chien regardait les oiseaux, mais en fait non, ce n'est pas ça, ça va être des trucs, enfin ce n'est pas évident, d'accord. En tout cas, ce que l'on voit ici, vous voyez, c'est évidemment, vous enlevez la tête du chien, vous êtes devant une peinture totalement abstraite, d'accord, d'expressionnisme, où l'on a un paysage, une atmosphère, vous voyez, et simplement le motif du chien, hein, la façon très orientale en quelque sorte. Pensez aux œuvres qui vont être celles de Van Gogh, celles de Manet, etc., qui vont retourner véritablement vers, enfin pas retourner, qui vont essayer d'adapter la vision occidentale à la conception spatiale et de l'être que l'on a en Asie, hein, avec les estampes japonaises, avec les peintures chinoises. C'est exactement ce qui se produit dans ce chef-d'œuvre qui est le chien, hein, donc des peintures noires. Donc là, c'est vraiment, comment vous dire, quand on parlait du coup de génie, hein, de Goya, c'est rare dans l'histoire de la représentation. À quoi on peut comparer ça? Tout le système de la représentation picturale en Occident, né à la Renaissance et dont le point culminant est évidemment Léonard de Vinci dans l'absolue et la parfaite simulation de la vie, hein, de la vue, avec des peintures que vous connaissez, évidemment très célèbres, eh bien, vient mourir auprès de ce chien, toi, tout simplement, de cette série de peintures noires. Et là, c'est vraiment dans cette peinture l'emblème de la nouvelle représentation, l'exploration d'un nouvel aspect, hein, simplement du réel, que Goya va parcourir. Donc c'est quelque chose qui est exceptionnel dans l'histoire de la peinture. Le chien, vous voyez, était placé là, à côté de la peinture manquante, la première peinture qui a été enlevée, hein, justement, de cette série, comme je vous le disais, par Mariano Goya, c'est-à-dire le petit-fils du peintre. Donc vous voyez les autres, alors on va poursuivre. Les deux vieux mangeant la soupe, qu'est-ce qui se passe? Je parlais du temps, etc. Là, comme on le dit, c'est la peinture de El Susurro. Ce qu'on entend, c'est le volet de la soupe, hein, des vieux qui mangent, qui n'ont plus de dents, etc. C'est la vision de l'horreur. Alors là, c'est essayer de retrouver des choses qui vont être exprimées, qui ne se sont jamais exprimées visuellement. D'accord? Donc, les vieux mangeant la soupe ici, c'était la peinture qui était en dessus de porte. Je crois que j'ai prévu ça. Non, attendez. Voilà. Non, bon, je vous le montrerai tout à l'heure où elle se trouvait. C'est une peinture qui était au-dessus de la porte, hein, tout simplement, ce qu'on appelle en dessus de porte. Alors, ici, c'est deux femmes riant devant un homme se masturbant. Vous voyez que l'homme, il a la main placée sur le sexe, évidemment, et les femmes se moquent de lui, évidemment. La sensualité peut être expérimentée d'une autre façon que dans l'autisme. Alors voilà, on a ici la cruauté, et on retrouve en même temps toute la dureté, hein, de scènes de genre que Goya avait développée à partir de 1792. On revient sur l'ensemble, vous voyez, ici on a donc la répartition des peintures et on va s'approcher de cette peinture-là, qui est celle que je vous montre au début. Hein, je vous ai montré la peinture, enfin la photo, hein, prise dans la maison, réalisée par Laurent. Là, il s'agit des trois parcs, hein, les parcs, donc les divinités antiques qui tiennent la destinée humaine entre leurs mains. Et la peinture vient de... Alors, le nom de la peinture, c'est Atropos, c'est-à-dire c'est la parc qui coupe le fil. Pop, hein, d'accord, qui est, c'est de là que vient le titre. Vous voyez, ici, on a du noir directement dans la peinture. Alors, je vous ai montré tout à l'heure sur la photo de le cliché de 1864 l'état d'usure. Et là, on voit bien que les aplats, ici, ce sont des reprises, notamment des restaurations un peu calamiteuses qui ont été nécessaires au moment de du transfert de ces peintures murales sur la toile. Alors, vous voyez, ceci est important. C'est un élément qui est une citation du Gréco, d'une peinture qu'il connaissait évidemment, qui est l'enterrement du comte d'Orgaff. Vous savez, dans la peinture, l'enterrement à l'entierro del conde d'Orgaff, c'est-à-dire le moment où il y a toute la noblesse tolédane et notamment deux saints qui donnent l'âme du comte d'Orgaff, hein, qui est l'âme humaine, en fait, en quelque sorte, un petit bonhomme bleu comme ça qui monte dans la sphère supérieure. C'est exactement la citation qu'emploie Goya dans cette peinture des parcs, sauf qu'on n'est pas dans le bleu, on est dans le noir le plus absolu. Et dans ces peintures, donc il y avait également on s'approche des dernières peintures, des trois dernières. Celle-ci, c'est Leocadia Zorrilla, c'est ainsi qu'on l'appelle. C'est un portrait donc de, on l'appelait la Alma de Llaves, c'est-à-dire l'âme Alma de Llaves, qui est la gouvernante en fait de Goya, qui était aussi sa maîtresse, avec qui Goya émigrera à Bordeaux, d'accord, où il vivra de 24 à 28 ici. Donc c'est un portrait, vous voyez, d'une femme dans un paysage. On voit bien que, encore une fois, le paysage que l'on reconnaît peut virer, hein, dramatique, ou alors simplement recouvrir quelque chose de plus sensuel, comme dans cette peinture. Là, ce sont les deux vieux, hein, comme on les appelle, dos viejos. Le thème, on le retrouve dans la série des vies des saints, etc., mais totalement transformé. À chaque fois dans ces peintures, on a une référence, hein, historique ou classique derrière, sur laquelle on ne s'attarde pas aujourd'hui parce que sinon, ce serait un peu trop long. Alors voilà, en gros, les peintures. Il nous manque plus qu'à voir une dernière peinture qui est parmi les plus importantes du cycle, qui est celle-ci, qui est la Romería de San Isidro. Les processions qui se font pendant les grandes fêtes, sauf que là, au lieu d'être dans la fête et la joie, c'est véritablement une sorte de caricature terrible dans laquelle tout devient à la fois un carnaval tragique. Vous voyez, regardez surtout ce personnage-là, c'est assez étonnant. Et tel qu'il était dans la maison, vous voyez qu'il était à hauteur, il est à hauteur naturelle. C'est-à-dire, il semblerait une personne sortie du mur dans la maison Goya. C'est pour ça que je vous le montrais précédemment, vous voyez, c'est à hauteur. Ici, la peinture telle qu'on l'a simulée, telle qu'on la voyait, à hauteur d'homme. Donc il y a vraiment une percée comme ça dans la peinture. On part du monde réel pour aller directement dans ce monde onirique. Et à l'intérieur, vous reconnaissez des thèmes, de los embozados, la maja, c'est-à-dire les thèmes que Goya avait développés dans les cartons de tapisserie, hein, puisque vous savez qu'il a peint jusqu'à 1792 des cartons de tapisserie pour les fabriques de Santa Barbara, c'est-à-dire un peu les gobelins espagnols. Hein, il était le peintre de cartons, qui est très important. Et là, il reprend des thèmes connus. Alors, los embozados, c'était ces types de galants madrilènes qui se couvraient la moitié du visage, vous voyez, avec la grande cape. Et las marjas, bon, las manolas, etc. C'est vraiment le thème de prédilection de la, alors de l'aristocratie encanaillée madrilène, d'accord, qui allait voir les lavandières, etc. Donc voilà ce que l'on retrouve, mais dans un carnaval tragique. Alors, voilà où se trouvait donc la Romería San Isidro, à côté de la Leocadia, et au-dessus de la porte, vous voyez qu'il y avait les deux vieux mangeant la soupe. Donc imaginez ce que veut dire, hein, là on n'a pas les meubles, certes, on n'avait pas tant que ça à l'époque non plus, ce que veut dire vivre dans cette ambiance. Hein, ces peintures sont des peintures privées. Des peintures privées qui vont devenir évidemment la révélation de l'art moderne. Mais imaginez surtout ce que Goya compose à ce moment-là et à quel point, hein, on a de la chance encore de les avoir gardées, presque toutes, en ayant sous les yeux à chaque moment cet acte de naissance de l'art moderne. Là, je voulais montrer une photo telle qu'elles sont présentées au musée du Prado. Hein, donc là derrière, c'est le chien, hein, qui est caché. Voilà, vous voyez un peu ce que ça, la façon dont l'espace est occupé par ces peintures, on voit au moins qu'elles sont hors contexte, d'accord. Bon, ben, c'est pour ça que je tenais vraiment à vous montrer la simulation, hein, dans cet intérieur de Goya. Et pour continuer, je voulais vous montrer la peinture donc, qui est aujourd'hui dans la collection privée de Stanley Moss à New York, qui serait, je pense que c'est assez évident, notamment après les radios qu'on a faites et le médium employé, c'est vraiment la même série, le même format et le même type de technique, où l'on voit en plus, vous voyez ici en transparence, quelques personnages effacés, etc. 5 personnages dans un paysage. Vous voyez bien la façon dont cet élément a été retiré de la maison alors qu'il faisait partie du même ensemble. Ce qui nous intéresse beaucoup dans cette peinture, alors il y a des collègues qui disent que ça, c'est pas du tout la peinture. Bon, on a le droit de pas être d'accord, hein, tant mieux d'ailleurs. À mon sens, ça l'est. L'un des arguments employés, c'est que le ciel n'a pas la même densité. Évidemment, banane, ça a été décollé à peu près 30 ans avant les autres. Donc, quand la maison n'avait pas été massacrée. Donc, c'est l'une des peintures les mieux retirées, des 54. Vous voyez, c'est pour ça, hein, qu'il y a aussi un élément et que cette peinture nous renseigne sur également les qualités plastiques des autres peintures. Donc on a pu voir la dégradation au fil des projections que je vous faisais précédemment. Alors, voilà cette incroyable série de peintures que Goya a léguée, qui est vraiment l'acte de naissance de la peinture moderne, de l'art moderne en général. Enfin, je parle des arts visuels, évidemment, bien que ce soit nourri de littérature classique, etc., et plus récente, dans la représentation, hein, du programme iconographique que Goya a choisi. Et je voudrais donc revenir dans le premier choc, en fait, que Goya a vécu, qui était en 1792, lorsqu'il est amant de la duchesse d'Albe. Alors là, mieux vaut couper court sur des hypothèses qui est un petit peu stupide, à savoir que la maja, vous voyez, desnuda et vestida, hein, la maja nue, la maja habillée, serait la duchesse d'Albe. Non, c'est pas le cas. On sait que ça l'est pas. C'est tout autre chose. Bon, mais toujours est-il que Goya, dans son intimité, donc va sur les terres de la duchesse d'Albe en Andalousie, et c'est là qu'il tombe pour la première fois malade, mais d'une maladie qui le terrasse, dont je vous parlais, qui est, on ne sait pas ce que c'est, ça a pu être un petit AVC qu'il avait laissé paralytique, aveugle, imaginez ce que ça représente, et sourd, et enfin, vraiment l'horreur. Et il s'en sort au bout de plus de 6 mois de convalescence, et lorsqu'il ressort de sa maladie, alors ce que je vous montre là, c'est une peinture intime de Goya qui montre la duchesse d'Albe se disputant avec sa duègne. La duchesse d'Albe, qui est la personne la plus titrée d'Espagne aujourd'hui encore, parmi les grands d'Espagne, beaucoup plus que les rois Bourbons, était une personne très jeune et non pas volage, mais enfin, c'est pas la rigidité à laquelle on pouvait s'attendre. Et justement, bah, pour la rattraper, hein, pour lui rappeler le protocole, il y avait sa duègne qui est derrière. Vous voyez bien qu'elle brandit une croix en lui disant ce qu'il faut faire ou pas faire, et la duchesse se fâche et la saisit par le cou à la duègne. D'accord ? Donc ce sont des peintures intimes de Goya, des toutes petites peintures qu'il avait offertes à la duchesse, évidemment, comme un journal, vous voyez, un journal intime. Alors, dans cette série de peintures, donc c'est pour vous montrer, lorsque Goya revient, sort de sa maladie, Eh bien, c'est le moment en 93 où il démissionne, où il dit, franchement, enfin, je vais vous lire son texte d'ailleurs que je vais traduire. Il réalise une série de peintures sur fer blanc. Là, vous avez l'une de ces peintures sur fer blanc ici qui s'appelle Le Préau des Fous. À Saragosse, il était créé l'un des premiers hôpitaux psychiatriques d'Europe, qui était l'un des plus anciens, donc, qui était le préau. Hein, c'est-à-dire, vous voyez ce que c'est, c'était un manicomio, c'est-à-dire un asile de fous. Hein, on mettait les fous, ils ne sortaient plus. Et vous voyez que c'est à ciel ouvert dans le préau, et les gens allaient visiter pour voir les fous. Hein, justement, dans toute l'horreur de la folie ou l'amusement, c'est quelque chose qu'on allait visiter cet asile de fous de Saragosse. Et donc, Goya, qui est de Saragosse, évidemment, représente ici le préau des fous. Il a représenté une douzaine de peintures sur fer blanc, et il les envoie à l'Académie, et je vous lis le texte qui accompagne cet envoi à Bernardo de Iriarte, qui était le secrétaire perpétuel de l'Académie, et lui dit « Pour occuper l'imagination, mortifiée par la considération de mes mots, vous voyez qu'il sort de sa maladie, hein, c'est très beau comme texte, « Pour occuper l'imagination, mortifiée par la considération de mes mots, et pour indemniser en partie les grandes dépenses qu'ils m'ont occasionnées, bien sûr, les médecins, ça coûte cher, hein, pas qu'aujourd'hui, hier aussi. Et pour indemniser en partie les grandes dépenses qu'ils m'ont occasionnées, je me suis consacré à peindre un ensemble de peintures de cabinet. » Ça veut dire des peintures de cabinet, ça veut dire des petites peintures qui sont peintures de cabinet, ce qu'on peut d'un format moyen et qui sont détachées d'un programme iconographique complexe, vous voyez, donc, qu'on peut accrocher dans un cabinet d'amateur. Donc, je reprends. Et pour indemniser en partie les grandes dépenses qu'ils m'ont occasionnées, je me suis consacré à peindre un ensemble de peintures de cabinet dans lesquelles je suis parvenu à faire des observations auxquelles ne donnent d'ordinaire pas lieu les œuvres de commande qui, dans le domaine du caprice et de l'invention, n'offrent pas d'expansion possible. Bon, c'est une phrase qui est absolument magique. Ben là, tout est dit. C'est-à-dire que Goya rompt, imaginez ce que c'est, en tant que premier peintre de la chambre du roi. Alors, il faut dire qu'il avait toujours eu des problèmes avec les Bourbons. Les Bourbons sont les Bourbons. Bon, et Goya ne s'entendait pas très bien avec eux. Lorsqu'on le nomme premier peintre, chose inédite, on le nomme premier peintre, mais avec un autre peintre qui est Maillard. C'est toujours entre la chèvre et chou comme ça. Sans âme, il faut tout. Tu sais, la corruption généralisée quoi, de cette cour en fin de règne ou fin de race qui fait qu'on ne prend plus de décision, sauf sous le règne de Charles III. Mais ça, c'est sous le règne de Charles IV. Et donc, Goya n'a jamais été très à l'aise dans ses fonctions. Mais là, il démissionne carrément de ses fonctions, c'est-à-dire il coupe ses vivres et il réalise ses peintures, il fait un pari de tout changer matériellement, tout comme esthétiquement. C'est-à-dire qu'il il ne va pas se mentir à lui-même, il pense que là est la voie de l'avenir en peinture et c'est ce qui va l'alimenter désormais. Alors, on était là en 93, après il va reprendre du service avec Ferdinand VII, etc. Bon, on ne va pas revenir sur tous les détails, mais regardez le pari que cela représente pour un homme qui a la soixantaine, justement, à ce moment-là. Alors, parmi les peintures de caprice et d'invention, il y a celle-ci, qui est au Minnow Museum, qui est une scène de naufrage, d'accord. Vous voyez qu'à chaque fois, ce sont des drames. Scène de naufrage, bon, ce sont... Alors, regardez ces personnages. Et pensez au radeau de la Méduse de Géricault. Vous voyez, on n'est pas loin. C'est vraiment quelque chose qui anticipe. On est en 93. Le radeau de la Méduse, ce serait sous la Restauration, bien après 1814. Vous voyez qu'on est là, 40 ans. Il va être repris, finalement, un peu comme Watteau, qui va totalement inspirer Fragonard. Mais entre-temps, il y a 60 ans qui passent. C'est pareil. Là, ici, c'est la même puissance, vous voyez, Goya vers les modernes qui seront évidemment Gros, Géricault, Delacroix, etc., enfin tous les grands, et puis Manet et Cézanne, enfin tous les plus importants. Alors là, c'est une autre scène qui est la scène de prison, vous voyez, c'est les prisonniers. Ça va être un leitmotiv dans la gravure de Goya également, notamment le prisonnier qui est un tout petit cuivre, l'un des rares cuivres encore à être dans une collection privée aujourd'hui, vous voyez, parisienne d'ailleurs. Bon, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Goya. Ici, une scène de sabbat, hein, vous voyez, c'est pas de la toile, hein, c'est fait sur ojalata, c'est-à-dire fer blanc. Et là, c'est à nouveau une vision du préau des fous. Hein, le Préau des Fous de Saragosse, où l'on voit, c'est pas le Préau des Fous, là, c'est l'asile de fous, vous voyez tous délirants. C'est, repensez également, quand je parlais de Géricault également, bon, pour des raisons personnelles aussi, qui va être proche de la décompensation et donc qui va connaître de près les années psychiatriques. Il va représenter les fous également d'assez nombreuses fois, d'accord ? Fous et cannibales. Hein, et donc, on va continuer dans la série. Là, on a les pestiférés. Là, c'est le préau des pestiférés. Donc, vous voyez, encore une scène absolument macabre. Et en comparaison, regardez la représentation des pestiférés, presque, enfin, un peu plus tardive hein, que ça, parce que ce sera exactement 20 ans plus tard, un peu plus de 20 ans après, par Gros, avec les pestiférés de Jaffa, hein, dans la peinture moderne, française, mais napoléonienne, d'accord ? Voilà, les pestiférés de Jaffa, vous savez, c'est lors de l'expédition de Bonaparte en Égypte. Alors, Jaffa, c'est à la vive aujourd'hui, hein, c'est le même endroit. Donc, c'est là où il souffre de la peste et qui est représenté. On a Bonaparte qui vient toucher les malades hein, pour les guérir des écrouelles, en gros, comme le faisait autrefois le roi. Vous voyez que dans la modernité française, finalement, on est en pleine peinture romantique, enfin pré-romantique, mais on est en plein dans ce que sera la modernité du romantisme. Mais vous voyez que c'est quelque chose qui est très différent de la conception goyesque. On est encore attaché au motif ici en France, au dessin et à la représentation iconographique traditionnelle. Ici, nouvelle représentation de Goya dans ces scènes de caprice et d'invention, les cannibales, vous voyez qu'elle va manger une main là, avec d'autres choses. Alors, c'est pas... Alors dans les scènes de cannibalisme, voilà, là ici c'est bien, on dépece. Regardez ça, c'est intéressant parce que ça traduit véritablement l'un des thèmes goyesques. Vous voyez, elle est dans le corps, hein, comme ça, c'est-à-dire elle est à l'intérieur. Enfin, l'aspect caché, hein, c'est ce qu'on a vu dans les peintures noires. Encore une scène qui est en... Voilà, une autre qui est en revers, hein, vous voyez, en miroir. Hein, la même scène, mais en plus petit. Et regardez les paysages, vous voyez, on est là dans les années 90, d'accord ? Enfin, 95, 97, on a une amorce de ce que seront... mais d'une façon monumentale, les peintures noires. Alors, parmi les scènes importantes, celle-ci encore, qui est donc encore toujours aujourd'hui à l'Academia de San Fernando, à Madrid, c'est-à-dire là où Goya les avait envoyés, qui est une scène de l'Inquisition. Alors, Goya va être poursuivi par le tribunal de l'Inquisition. Ça ne va pas durer longtemps, hein, mais il a, lors des publications des Caprices, notamment, il s'en prend à l'Église. Le tribunal de l'Inquisition existe toujours, même si c'est pas, même s'il s'en échappe, ça va. Il a des remontrances, etc. Mais le roi Charles IV, justement, à cette occasion, acquiert l'ensemble des cuivres des Caprices pour protéger Goya et l'intégrer dans les collections royales. Et en même temps, va fonder la calcographie royal, hein, qui va être créé d'abord avec l'ensemble des cuivres des Caprices de Goya, hein, pour vous dire. Donc Goya va être plus embêté auprès du tribunal de l'Inquisition pour la Maja Desnuda que pour ces scènes hein, qu'il représente. Mais là encore, c'est quelque chose de vécu et de caricaturé par lui dans ceci. Alors là, c'est des scènes de viol et d'assassinat. Il va en réaliser de nombreuses. Alors, je vous parlais justement de vous voyez, de comment la maladie va déclencher chez Goya une relation nouvelle à la figuration. Bon, est-ce que la maladie ou autre chose, je ne sais pas, c'est peut-être pas ça le déclencheur, j'en sais rien. En tout cas, c'est juste après avoir côtoyé la mort qu'il va aller vers cette recherche esthétique, et en même temps, on va dire, véritablement fondamentale, et qui va ouvrir sur la peinture moderne. Et en gravure, donc, il y a ces œuvres absolument remarquable. Je vous ai lu tout à l'heure la lettre à Iriarte de l'année 94, qui était donc ce qui venait conclure cette recherche picturale de l'année 93. Eh bien, elle est résumée dans la planche numéro 43 des Caprices, qui est celle que vous avez sous les yeux. Et le texte dit « El sueño ». Vous voyez, il est là le texte « El sueño de la razón produce monstruos ». C'est-à-dire « Le sommeil de la raison engendre des monstres ». Vous voyez que c'est exactement le thème que l'on a vu aborder dans ces scènes de caprice et d'invention. Alors, parmi les caprices, je vous ai choisi plusieurs éléments là-dedans. Hein, vous voyez que la jeune fille va arracher la dent d'un pendu, une dent d'un pendu pour faire un filtre d'amour, enfin un truc comme ça. Ici, c'est chacun trouve sa place. Alors, les chaises à l'envers, bon, ce sont des scènes très intéressantes et intrigantes. Mais regardez la qualité de ces gravures. Je voulais vous dire quand même que Goya rénove et bouleverse aussi l'art de la gravure. Alors, Goya avait comme maître, il disait qu'il avait deux maîtres, il disait à un moment donné, Tagore Maestro, j'ai connu deux maîtres, Rembrandt et la nature. Rembrandt qui est parmi l'un des plus grands peintres graveurs de l'histoire de l'art occidental. Et on retrouve effectivement des inventions dans l'art de la gravure. Là, c'est toute l'aquatinte au fond. C'est absolument prodigieux, hein, pour vous dire, c'est les gravures de Goya. Dans la rénovation, tout ça, et il y a toujours un va-et-vient entre la peinture et la gravure. Là, c'est une peinture monumentale. En fait, c'est un diptyque qui est au musée de Lille aujourd'hui, qui avait fait partie des collections Louis-Philippe, etc., et qui a ensuite s'est retrouvé au musée de Lille. Ce sont les jeunes et les vieilles. D'accord ? Donc les jeunes et les vieilles. Bon. Et en plus, dans l'humour très proche des Caprices, et des années, ces peintures datent de l'année, des deux années de réalisation des gravures des Caprices. Qu'est-ce, hein, comment ça va, hein, bon, on imagine. Et derrière, vous voyez, il y a la figure de Saturne déjà, hein, avec le flambeau, etc., qui attend. C'est en même temps presque la parque, par anticipation, à Tropos, qu'on avait vu tout à l'heure, en même temps que le Saturne des peintures noires. Alors, je voulais vous montrer un dessin de Goya, parce que tout ce à quoi il a touché, un peu comme Picasso, a été d'emblée rénové et d'une façon inédite et remarquable. Enfin, c'est l'un des plus grands génies de la peinture occidentale. Là, c'est un dessin de Goya. Vous voyez, on reconnaît bien la facture du dessin avec ses numéros. C'est un dessin préparatoire pour l'une des planches des Caprices. Vous voyez comment la façon dont l'aquatinte est traitée équivaut véritablement au lavis, tel qu'on le voit là sur ce dessin, sur cette feuille. Voilà. Alors là encore à nouveau une scène des Caprices dans la prison, et puis ici voilà aquella pobre. Donc on a ici la scène 23 des Caprices, et qui reprend les scènes de l'Inquisition évidemment. Et là, dans encore une fois, autre scène qui annonce l'autre grande peinture, l'autre grande série gravée, qui est celle des désastres de la guerre. Cette scène, vous le voyez, nous rapproche du siège de Saragosse, évidemment, et le moment où Goya fuit, et a très peur, hein, craint pour sa vie, mais d'une façon politique, évidemment, et va se réfugier dans son village natal de Fuente Todos, où demeure la famille de sa mère. Bien. Alors, il y a justement autour de 1814 deux grands chefs-d'œuvre que Goya réalise. Je vous ai montré les Pestiférés de Jaffa pour refaire un lien avec l'école française héritière de David, qui est l'un des grands maîtres de la modernité également, mais d'une autre façon que Goya. Et il y a ces deux chefs-d'œuvre complémentaires, le 3 mai, El 2 et El 3 de mayo, le 2 et le 3 mai. Le 2 mai, celui-ci, c'est la révolte des Mamelouks. Et là, c'est les exécutions sur la Moncloa. D'accord, vous les connaissez, ces peintures. Ces peintures, Goya les réalise très rapidement en 1814, lorsque revient sur le trône Ferdinand VII. Vous savez, vous connaissez l'histoire. En 1808, au moment de l'invasion napoléonienne, Ferdinand VII, prince d'Asturie, fils de... Fils de Philippe, fils de, je l'ai pété, mais c'est pas grave. Fils de Charles IV, fait un coup d'État contre son père, hein, tout simplement. Et Napoléon le prend en mot, il lui fait abdiquer Charles IV, et puis finalement, il lui fait abdiquer lui aussi pour le profit de son frère Joseph Bonaparte. Sauf que la famille royale espagnole revient après l'échec, hein, patent de la conquête espagnole par les troupes napoléoniennes. La famille revient de son exil et Ferdinand VII redevient roi d'Espagne, alors que l'Empire n'est pas encore tombé. Et à ce moment-là, Goya, qui avait fui les honneurs de la cour, etc., s'était montré du parti français, afrancesado, pour le siècle des Lumières, vous voyez, mais pas pour la conquête napoléonienne, loin de là, et qui était toujours nationaliste, réalise ces deux grandes peintures pour montrer son attachement à l'Espagne, hein, véritablement, qu'il prend son parti. C'est vraiment le procès, un peu comme de la collaboration, hein, qui se produit à ce moment-là, au retour du règne de Ferdinand VII. Donc, ces deux grands chefs-d'œuvre, Goya les réalise à ce moment-là, et vous voyez que ce sont là des explosions, évidemment, de couleurs. Vous savez que vous voyez bien que cette peinture a tellement fasciné Manet, hein, que ça deviendra le thème récurrent de l'exécution de Maximilien, etc. Peinture très importante, hein, d'Edouard Manet, qui reprenne pied dans cette réalité peinte par Goya. Et Goya, justement, réalise immédiatement dans la foulée la série dite des désastres de la guerre, qui a deux conclusions. Celle-ci, vous voyez, c'est une sorte d'apparition... d'apparition divine, hein, ça reprend comme une naissance, voyez, ou une épiphanie. Et celle-ci, qui est l'autre, ce sont les deux planches conclusives des astres, qui s'appellent Fiero Monstro, qui est bête, monstre cruel. D'accord ? Vous voyez que c'est un monstre qui mastique des cadavres humains. D'accord ? C'est une façon d'exprimer l'horreur de la guerre en même temps que l'horreur dont est capable l'humanité. Tout ce qu'il a vu qui est exprimé là d'une façon symbolique. Et l'ensemble des autres planches sont des éléments que Goya a vus et qu'il reproduit. C'est vraiment comme du reportage là, de guerre pratiquement, mis à part ça qui est un élément symbolique, qui est l'église dansant sur un fil, hein, ça on imagine. Alors voilà. Voilà ce que Goya a vu lors du siège de Saragosse. Voilà sur un tas de cadavres une personne qui vomit. Là, les scènes d'exaction des troupes napoléoniennes, hein, couper le corps en morceaux, enfin montrer, à terrifier l'ennemi, hein, tout simplement. Ce sont des éléments vus par lui, d'accord. Là encore, ce sont des atrocités. Là, ce sont simplement des Aragonais, hein, qui viennent dépecer les cadavres pour prendre ce qu'on peut prendre. Et les scènes de prison, hein, toute la misère humaine qui est générée par la guerre. Vous savez, ces gravures ont inspiré énormément un peintre. De premier ordre, qui s'appelle Zoran Muzic, hein, qui a notamment réalisé une série de gravures, d'après celle-ci, qui s'appelle Nous ne sommes pas les derniers, d'accord, qui s'est inspiré de Goya, qui a réalisé les scènes de déportation de Dachau, on dit en français, qui sont demeurées parmi les créations artistiques les plus fortes, hein, qu'on ait eues sur la déportation et l'extermination dans les camps de concentration. Alors, voilà encore ces scènes terrible, et comme toujours je vais vous montrer le thème du prisonnier. Là c'est un dessin, hein, de Goya qui sera évidemment exploité par la suite sous forme de gravure. Alors dans les grandes séries gravées, on se rapproche évidemment de l'exil de Goya. Il est toujours en Espagne là à ce moment-là. Pourquoi la Tour au Mâché en français ? Ben parce que elle va être publiée pour la première fois en France, justement à Paris, et donc sous la Tauromaquia, ça va être la Tour au Mâché, avec les titres de gravure qui vont être sous-titrés en français. Alors, dans cette tauromachie, qu'est-ce que l'on voit ? Là, c'est évidemment la mort de Pepe Illio, avec une scène assez forte. Et vous allez voir, surtout, ce qui est repris, là, c'est quelque chose d'extraordinaire que va reprendre énormément Degas, notamment, dans les Degas, que va reprendre Van Gogh, et évidemment, que vont reprendre tous les modernes français. Regardez la juxtaposition des plans. Là, c'est absolument incroyable. Il n'y a pas de perspective dans cette composition. Tout est plaqué l'un sur l'autre. Et si vous regardez en détail, le noir du fond, hein, qui rappellera les peintures noires, est en fait une succession de têtes, hein, collées les unes sur les autres. Et devant, vous voyez, tout est construit en plan, appliqué les uns sur les autres. Autre scène de la Tauromaquia, ici, alors regardez, il y a le thème évidemment de Goya, c'est la canaille, hein, qui s'acharne avec ses lances, avec des lances évidemment, des banderilles et d'autres armes. La canaille, d'accord, ça fait partie des thèmes vraiment goyesques. Là encore, vous voyez qu'on n'est pas dans la perspective, on a des premiers plans, second plan, mais tout est juxtaposé l'un contre l'autre. On n'a pas la vue perspective qui est la conception traditionnelle de l'espace dans la peinture occidentale. Et ici, justement, c'est l'une des planches. Alors, c'est une planche qu'on a acquise il y a très peu de temps. Il y avait resté 4 planches de Goya de sa dernière grande série gravée qu'il réalise à l'intérieur de cette Quinta del Sordo avant de quitter Madrid. La série gravée s'appelle Los Disparates. D'accord ? Et je vais vous en montrer donc celle-ci qui est de la pluie de taureau. Là, c'est une photo du cuivre, hein, qui est maintenant conservée au musée du Louvre. Vous voyez, on est vraiment dans un espace onirique qui n'a rien à voir. Là, c'est El disparate del vuelo, c'est-à-dire l'exagération du vol, vous voyez, simplement le vol, avec ces personnages qui reprennent un peu les chauves-souris que l'on voyait précédemment. Et donc, comme autre disparaté, la monstruosité, ce cuivre aussi, on l'a acquis au musée du Louvre avec deux autres, donc avec trois autres, enfin, dont l'appui de taureau, ce qui reprend en fait une peinture italienne du XVIIIe siècle que Goya avait pu voir, hein, évidemment, dans les collections royales, peinture napolitaine. C'est-à-dire que tous ces éléments, ça ferait l'objet évidemment de d'autres études ou démonstrations, on n'a pas le temps là, de tout montrer en même temps, sont des références à l'art classique. Vous voyez, il faut voir Goya comme vraiment une immense synthèse à l'image de ce qu'a été la peinture en Espagne depuis véritablement le XVe siècle. À chaque fois, synthèse entre les écoles du Nord, l'école italienne, l'Italie du Nord, Rome, Florence, etc. C'est à chaque fois un moment de synthèse, et Goya produit une synthèse qui est incroyable, qui est celle de l'ensemble de l'art occidental qui l'a précédé. Alors, puisque vous le savez, Goya, en 1824, pourquoi vient-il à Bordeaux ? Il vient à Bordeaux pour des raisons politiques, c'est-à-dire que, comme on l'a vu, quand il s'isole dans cette Quinta del Sordo, il s'éloigne de la cour de Ferdinand VII. Il demeure le premier peintre du roi, le premier peintre de la chambre, mais un autre peintre, Vicente López, réalise les portraits et est à nouveau, non plus Maella, mais López maintenant, le peintre qui va réaliser les portraits de la cour. Et Ferdinand VII se méfie de Goya de façon, à un moment donné, Ferdinand VII, justement, lorsque Goya s'en va en 1824, réinstitue la monarchie absolue. C'est-à-dire que c'est vraiment le moment d'exaltation de l'anti-esprit révolutionnaire français. Enfin, c'est le conservatisme qui triomphe. Et là, Goya part, et part en France, justement, à Bordeaux, où il va réaliser, évidemment, de nombreuses œuvres. Et notamment, ces taureaux, les taureaux de Bordeaux. Alors là, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une peinture, une petite peinture composée, mais vous savez que les taureaux de Bordeaux, los toros de Burdeos, comme on les appelle, dans l'œuvre de Goya, eh bien, sont ces quatre gravures qui sont des lithographies. Et ces lithographies sont parmi les plus importantes de l'œuvre goyesque. Elles résument en quatre planches, finalement, tout l'esprit de la tauromachie, plus l'esprit des disparates. Et en fait, elles ont été, alors ce sont parmi les plus rares, si vous les trouvez, surtout vous achetez tout de suite, hein, parce qu'il y en a très peu. Et puis c'est arrivé, je vous dis ça, parce que justement il y avait eu un... Bon, enfin, je ne vous dis pas tous les détails, mais c'était la personne avait fait une bonne affaire. Et donc on peut les trouver des fois, donc c'est bien. Alors ces taureaux de Bordeaux, vous voyez, ont été repris notamment en peinture, comme je vous le montrais. Mais vous voyez, tous les éléments qui sont là, vous voyez bien que c'est une composition sur les plans superposés. En même temps, essayer d'instituer des formes géométriques comme le cercle que l'on voyait un peu partout, ce qu'on a vu avec le disparaté de l'éléphant, là, etc. Essayer de montrer des formes géométriques sans perspective, par accumulation et juxtaposition. Et quand vous regardez des tableaux aussi célèbres que l'absinthe, par exemple, de Degas, des tableaux de Manet, des tableaux évidemment de Cézanne aussi, vous avez ce système de composition. C'est-à-dire qu'on est rentré, on a franchi un cap là, qui n'a plus rien à voir avec la composition traditionnelle de la peinture. Alors, on peut le voir, vous voyez, quand tu s'exprime en peinture, on a l'impression de voir une petite peinture de Manet, là. Vous voyez, tous les rapports sont cassés avec la conception traditionnelle de l'art de peindre. Et en même temps, vous voyez, on n'oublie pas qu'il y a la bête morte ici qui rappelle quand même étrangement la conclusion qu'on a vue tout à l'heure de Fiero Monstro, qui est le monstre dévorant. Et évidemment, l'ultime chef-d'œuvre de Goya, classé comme tel, c'est la Lechera de Burdeos, en espagnol, telle qu'elle est présentée au Prado, la laitière de Bordeaux, qui est peinte donc à Bordeaux. Cette peinture, dans la composition, dans la présentation, est assez étrange. En fait, la toile est coupée, d'accord ? Goya signe ici, mais la toile est coupée. Il a coupé la toile, le panneau, et la jeune femme, la jeune laitière, est assise sur un âne, d'accord. Ce qui fait qu'on la voit da sotto in su comme ça, d'accord. Voilà pourquoi. Ça a été une modification de l'œuvre. Alors, ce qui est parmi d'autres choses absolument fascinant cette peinture, c'est que Goya va jeter dedans. Vous voyez, c'est vraiment un rappel. Vous voyez la matière extraordinaire qu'il y a dans le voile, de la laitière, etc. Et regardez, vous voyez, Judith Holofernes, quand je vous le montrais tout à l'heure, je voyais le masque de Judith. C'est la technique qui est appliquée là. Goya jette du sable dans l'huile qu'il broie, etc., pour donner de la matière à cette peinture. Chose absolument nouvelle, vous voyez, pour densifier. Il y a une recherche qui va mettre la matérialité de la peinture. Et en même temps, à la façon des peintures noires, vous voyez ici ce contour. Alors là, il est important de le voir. Vous voyez, elle regarde bien quelque chose, cette jeune femme, que Goya a masqué ensuite. Vous voyez un œil là, une narine ici, la bouche. Hein, c'est vraiment, vous voyez, on la voit bien là, l'œil ouvert qui le regarde, le front, et un regard qui va comme ça. Hein, vous voyez, et la jeune qui le regarde, qui s'approche de lui. Alors, C'est la dernière peinture de Goya, c'est peint à la façon des peintures noires également qu'il avait peintes dans la Quinta del Sordo à Madrid, et avec des superpositions. Vous voyez, on voit bien la peinture qui n'est pas tel motif qui va être achevé, prédessiné, etc. C'est une peinture qui s'inscrit dans le temps, hein, de la composition, qui dure durant plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs semaines, peut-être plusieurs jours, on n'en sait rien, enfin, il faut que ça sèche quand même, mais qui est modifiée au gré de l'impression que Goya veut laisser. Alors, c'est cette peinture qui rappelle tellement étonnamment, enfin, qui va appeler plutôt à la peinture qui va suivre. C'est du Cézanne, c'est en même temps, évidemment, tous les grands maîtres de la modernité française qui sont là, qui ouvrent, vous voyez, confrontation entre la beauté, la jeunesse de la beauté et la monstruosité cachée, hein, dans le ciel ou dans la matière, qui est l'une des clés, tout simplement, de la peinture moderne. Et c'est sur cette image donc, que je terminerai cette conférence, hein, en vous remerciant d'avoir été si attentifs. Merci à vous.